Et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Ravis ce soir pour cette belle vibra-conférence en compagnie eh bien, de Paul Pironet. Et oui, bonsoir Paul.
Coucou Sarah. Bonsoir à tous.
Bonsoir, bonsoir. Alors, je sais qu'on a, vous êtes connectés là sur les différents réseaux. On va prendre le temps de se connecter avec vous pour cette belle vibra-conférence. Je vois qu'on a déjà du monde. Michel qui nous salue. Mélika qui est également présente. Je vous rappelle que ce chat, c'est aussi un moyen de co-créer, de communiquer avec nous pendant ces temps de Vibra et d'atelier. Donc, on vous invite à l'user, à l'utiliser autant que vous le souhaitez pour participer et bien évidemment en toute bienveillance. Voilà, on va prendre ce temps de savoir si vous nous entendez bien, si vous voyez bien Paul, si vous me voyez bien, si tout est OK, histoire de pouvoir commencer dans de bonnes conditions et puis prendre le temps de rentrer dans cette Vibra conférence et pas des moindres, parce que bah, je suis ravie d'être avec toi ce soir, Paul. J'avais vraiment envie que vous connaissiez Paul Pironet. Je sais que vous avez eu l'occasion d'avoir Pierre, qui était là présent aussi sur la chaîne. Mais là, j'aimerais vraiment prendre ce temps, si tu veux bien, pour t'introduire et puis par la suite, peut-être ajouter, si tu le souhaites, des éléments. Merci pour les personnes qui sont déjà connectées. Traoré qui nous salue, Mia, Joyelle également. Super. Donc, tout est OK, j'imagine. Faites-moi un petit pouce, envoyez-nous du love, des cœurs. On est là, on reçoit tout ça. Et bonsoir, Michel, de nouveau. Et puis, on va commencer. Alors, moi, j'aimerais... Bouches-du-Rhône, super Sandra, mais bienvenue. Mais écoutez, moi je voulais vraiment vous présenter Paul. On va prendre quelques petites minutes. Je voudrais déjà commencer par dire que tu as passé ton enfance avec Lanza del Vasco, le disciple de Gandhi, c'est pas rien. Suite à cette enfance fortement imprégnée de valeurs humaines, tu t'es naturellement orienté vers des outils de développement humain, touché essentiellement par deux dimensions essentielles, l'ouverture à la différence, et le sens que chacun peut donner à son existence, et c'est pas rien. Alors, tu as fondé, beaucoup plus tard, aujourd'hui fondateur de Paul Pironet Institute, enseignant en PNL, certifié, conférencier, auteur. Tu as 30 années d'expérience en relation d'aide et en développement personnel. Tu as aidé de milliers de personnes à changer leur vie et à orchestrer de réelles transformations positives dans leur vie. Tu as accompagné des dizaines d'organisations aussi à améliorer leur relation à la performance et à multiplier leurs résultats. C'est pas rien non plus. Et aujourd'hui, tout cela amène cette notoriété qui est celle que tu vis aujourd'hui et qui ne cesse de grandir parce qu'aussi tu t'es forgé à différentes disciplines et pas des moindres, notamment la Gestalt thérapie, l'andragogie, ciblée sur l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, le coaching et bien évidemment la PNL. On va aussi en parler ce soir. Donc tout ça fait de toi cette personne aujourd'hui, au-delà de ça, une personne aussi très humaine, une personne agréable. C'est toujours un moment intéressant. On a beaucoup réfléchi sur comment on allait pouvoir positionner cette vibra-conférence et en toute humilité, tu m'as ouvert ce temps de co-création, donc je t'en remercie. Voilà, Polo.
Eh bien, écoute, quelle belle présentation, ça. effectivement, une enfance particulière, née en communauté, avec une évolution après vers Grenoble, avec une vie un peu particulière, secouée par la vie des quartiers, puisque je me suis retrouvé dans des quartiers un peu chauds, notamment la Villeneuve à Grenoble. Puis après, j'ai été un peu brassé par la vie, un décès de ma maman quand j'avais 12 ans, et puis à 16 ans, j'ai dû me prendre en main. Et grâce à une filière dans laquelle je crois que j'ai un peu sauvé ma peau, en quelque sorte, je vais faire du secourisme pour sauver celle des autres. Et j'ai aussi sauvé un peu la mienne. Et puis après, je me suis spécialisé dans beaucoup de choses qui concernent le sauvetage. Je crois que j'étais très animé par le besoin d'aider, de sauver, notamment de sauver en circonstances à haut risque. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai fini même en sauvetage en mer pendant plusieurs années. Et puis, c'est toujours pour aller plus loin, plus haut, plus fort encore que j'ai finalement découvert le développement personnel. Mmh. Et du coup, dans cette quête de vouloir performer plus encore, eh bien, j'ai eu envie d'aller chercher plus profond des nouvelles ressources qu'on me présentait comme possible. Et en fait, au-delà d'aller vers une quête de performance plus élevée, du coup, je me suis un peu réorienté vers une prise quelque sorte de conscience de qui je suis avant d'être ce que je fais, en fait. Et dans cette course, je pense au succès, j'ai été beaucoup animé d'un vide intérieur, d'une grande insécurité aussi. Probablement que je comblais par cette quête de sauver le monde, en fait, de sauver les autres. C'était vrai, hein, j'étais vraiment performant dans ce domaine, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, ça m'a aidé dans plein de choses, ça a donné beaucoup de sens à ma vie à l'époque. Mais la difficulté psychologique, neuropsychologique dans laquelle j'étais, mais dont je ne me rendais pas vraiment compte à l'époque, c'était évidemment ce vide intérieur, ce besoin de se comparer en permanence aux autres, ce sentiment que je n'en faisais jamais assez. Je pense que j'étais assez bien monté pour faire un arrêt cardiaque à 40 ans. Et en gros... Voilà où voilà. Alors à la fois il y avait ce plaisir de la performance hein, qui m'animait beaucoup, mais en même temps une grande insécurité psychologique en fait intérieure qui me poussait beaucoup à la comparaison et à tout ça. Donc développement personnel a permis de rééquilibrer en fait en quelque sorte cette dimension. Alors, ça s'est pas fait en une fois. En même temps j'ai un esprit d'entrepreneur. Moi j'ai toujours aimé entreprendre. Et du coup, dans le cadre du développement personnel, bah, très vite, j'ai eu envie de devenir formateur. Je suis intervenu aussi pas mal, comme tu le disais, dans le monde des entreprises. Et comme la notion d'équipe m'a toujours animé, au-delà de l'évolution personnelle que j'ai connue à travers la thérapie d'abord, et puis ensuite, bah, les nouvelles approches de développement personnel, je me suis aussi beaucoup intéressé aux équipes. Pourquoi on était ensemble? Qu'est-ce qui donne du sens à sa vie? À l'entrepreneuriat et collectif? Voilà, j'ai beaucoup œuvré là-dedans et c'est vrai que c'est un parcours que j'ai trouvé très riche. Moi, je pourrais mourir demain en disant que j'ai trop bien vécu pour ne rien regretter. Voilà, ça a été une vie parsemée de rencontres, parsemée de diversité, parsemée de. Voilà, mais avec effectivement cette quête dont tu soulignais qui m'a touché, je crois, dès l'enfance, c'est cette quête d'ouverture à la différence. Quand je dis la différence, c'est pas seulement des personnes, hein, c'est pas de situations qu'on a du mal à vivre. Et ça m'a toujours passionné de voir comment, alors qu'on peut avoir 3 ou 4 personnes face au même événement, chacune de ces personnes va en faire quelque chose de très différent. Et ce qui m'intéresse justement, c'est qu'est-ce qui fait cette différence dans ce que nous sommes et dans l'interaction qu'on peut avoir avec les événements qui nous entourent. Du coup, dans cette quête-là, entre la situation et la réaction, de découvrir qu'il y a un champ de possibilités infinies, qu'on peut écrire, qui est écrit quand on reste dans nos automatismes, mais qu'on peut écrire à tout instant, en fait, quand on décide de redevenir conscient de ses choix. Et ça, c'est une des premières choses qui m'a beaucoup touché dès l'enfance, cette notion d'ouverture. Et puis, effectivement, comme tu le soulignais très justement, ce besoin d'être aligné entre ce que l'on vit, ce que l'on est, ce que l'on fait. Et là, pour le coup, cette cohérence qu'il y a entre eh bien, des choix que l'on fait et notre système de valeurs, en fait. C'est cette équation-là qui me passionne particulièrement aujourd'hui.
Complètement. On en a parlé pas mal aussi en off avant de commencer cette Vibra conférence, avant, hein, quelques jours avant. Et ce que j'aimerais aussi mettre en évidence, c'est qu'en filigrane, on a cette notion de spiritualité, qui n'est pas forcément quelque chose que tu vas totalement exprimer tout le temps, mais qui germe et qui fait partie de tout ce que tu viens de dire. À chaque, je dirais, dans chaque cellule active que tu mènes, il y a cette part. Elle commence avec des valeurs, on en a parlé, avec ce disciple de Gandhi qui, j'imagine, a dû apporter aussi quelque chose de très spirituel. Et comment aujourd'hui, ça fleurit à travers tes entreprises à différents niveaux et toujours cette volonté toujours d'être aussi dans le don et dans l'accompagnement.
Alors, c'est une vaste question, hein,
complètement.
Comment la spiritualité d'abord elle se définit, puis comment elle se vit, surtout comment elle s'incarne dans le quotidien. C'est évidemment une question qui m'anime beaucoup. Avant ça, vis-à-vis de nos auditeurs, je serais curieux de, comme ça, si ceux qui nous écoutent sont d'accord, nous dire tiens, pour moi, quand je pense spirituel, le mot spirituel, à quoi je l'associe tout de suite. Si vous êtes d'accord, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir l'interaction avec vous et puis de rebondir parce que bon, moi, je vous fais part après de mon expérience, mais je trouve que de pouvoir aussi interagir avec vous, c'est toujours très intéressant. Donc, si vous avez envie de réagir comme ça, à quel, pour vous, spirituel égal et vous. Et comme ça, en un mot ou en deux, ce que vous avez envie de mettre derrière. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je propose de vous parler un petit peu de la manière dont moi, je conçois cette notion spirituelle. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est le croisement entre trois axes. Il y a à la fois cet univers intérieur, quelqu'un dit, Cécile dit l'univers.
C'est l'univers.
On va commencer par l'univers intérieur, mais ce n'est pas le seul. Effectivement, il y a cet univers intérieur qui se découvre peu à peu à travers le présent, qui est cette reconnexion à soi, sur au fond, qu'est-ce qui m'anime profondément. Donc, tu soulignais les valeurs il y a quelques minutes. Je pense qu'il y a une dimension importante dans cette voie des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur ? Ben, c'est quelque chose auquel j'attache de l'importance. Ça peut être un besoin, une envie, une attente, un désir. Donc, pour l'instant, je vais mettre tout ça là-dedans. Ça peut concerner ce que je vis, ce que je suis, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je partage, ce que je donne, ce que j'apporte aux autres. Et puis, ça peut aussi concerner ce que je fais. Je peux donner de la valeur au fait de faire du sport, d'étudier, de travailler, d'enseigner, de soigner. Et puis, ce que j'ai aussi, je peux apporter aussi de la valeur au fait d'être dans un environnement, et donc du coup d'avoir un environnement qui soit beau, d'avoir un environnement qui soit élégant, qui soit fait de nature, de bois, de pierre, enfin bref, donc il y a des avoirs. Mais au fond, c'est vrai que ces avoirs, ils sont là pour nous faire vibrer sur une corde intérieure, qui est notre âme en fait, et tout ce qui est autour, et donc en l'occurrence, notre dimension plus émotionnelle. Donc je pense que le premier axe important de cet univers, c'est l'univers intérieur. Mmh. On va toucher jusqu'à l'âme. Julie nous parle justement.
On disait que c'est un message de l'âme.
Mmh. Et qu'est-ce qui vibre au plus profond de nous, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à ouvrir et à redécouvrir, parce que je crois qu'enfant, on l'avait instinctivement, et puis après, on l'a un petit peu perdu avec notre développement mental. C'est pas qu'on l'a perdu, mais c'est qu'on a oublié de lui donner de la place. Donc, on peut le retrouver. Donc, c'est ce premier axe important. C'est le qui je suis à travers ma sensibilité, ma créativité, etc. Ensuite, pour compléter ce qui je suis, il y a qui je suis aussi à l'égard de mon passé. On n'a pas tous la même histoire. Et c'est très intéressant. Ça fait, comme tu le disais, plus de 30 ans que j'accompagne des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des anciens. Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse vraiment à l'histoire d'une personne, que celle-ci ait été positive, valorisante, et qu'elle laisse énormément de bons souvenirs, ou malheureusement parfois beaucoup plus difficile, blessante. Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à cette histoire, c'est qu'on se rend compte que notre identité, c'est au fond l'accumulation de toutes ces expériences. Ce qui fait ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous aspirons à devenir, mais il y a aussi une partie de ce que nous avons été et ce que nous continuons d'entretenir. Et donc, dans ce passé, qui était douloureux ou positif, il y a des choses extraordinaires à tirer qui font pour moi partie de cette intériorité, de cet univers intérieur qui va faire mon identité. En l'occurrence, moi, ben, je me rends compte à quel point, si je reviens sur toute ma vie, j'ai eu l'occasion de le faire de nombreuses fois, il y a comme des points qui s'alignent, en quelque sorte. Il y a comme tout d'un coup une cohérence qu'on peut retrouver sur notre histoire, quelle que soit l'histoire qu'on a eue, quelles que soient les blessures qu'on a rencontrées, quels que soient les challenges qu'on ait traversés. Et c'est surtout à travers cette deuxième dimension, je crois que, au fil des ans, j'ai eu le plaisir, la chance, l'honneur aussi de pouvoir accompagner beaucoup de personnes. Et puis, quand on découvre ce monde intérieur, à travers ce que nous sommes, ce que nous avons été, à travers notre parcours, il y a une autre dimension, c'est notre relation, cette fois-ci, au monde extérieur. Donc ça fait pour moi partie de la spiritualité, ça commence par ce que nous, on peut appeler aussi de l'écologie, hein, c'est-à-dire comment je suis, qu'est-ce que je me donne comme mission à l'égard de ma contribution, que ce soit à travers mon conjoint, mes enfants, ma famille, mon environnement, mon jardin, les arbres qui m'entourent, la société qui m'entoure, pour laquelle j'œuvre. Et donc là, chacun de nous va découvrir dans sa raison d'être, dans sa mission, dans sa contribution, ce qu'il peut apporter de beau, de bon, de constructif au monde. Et puis, là-dedans, il y a aussi des actions qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément, à un moment donné, très équilibrées entre ce qu'on voudrait être ou faire ou défendre et puis ce qu'on fait toujours. Et moi-même, je ne suis pas toujours... je conduis une voiture, un 4x4 en l'occurrence. Bon, il y a des fois, je me dis, Polo, je fais un peu attention, évidemment, au choix des véhicules, tout ça, pour l'écologie. Je prends des avions parce que j'ai besoin de me déplacer pour aller faire des séminaires. Bon, il y a un moment donné où cette question, elle est là. Et c'est ça, la spiritualité. Enfin, c'est mon deuxième grande version de la spiritualité. C'est à quelle attention je porte à l'égard du sens de ma vie en équilibre avec l'environnement dans lequel je suis. soit immédiat, qu'il soit un peu plus éloigné, ou qu'il soit le monde, hein, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le monde, en fait, que ce soit les proches, les moins proches, les enfants, la société, les océans, les animaux, etc. Donc là, il y a une deuxième dimension, au-delà de notre intériorité, qui vient trouver sa place aussi dans cet environnement. Pour moi, c'est la deuxième dimension qui définit, qui va me définir dans ma relation spirituelle, pour le coup, au monde. Mmh. Et puis, alors, je parlais du passé, évidemment, du futur, parce que le futur, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire que quand je m'interroge sur l'environnement, c'est quelle est mon ambition. Quand je m'interroge sur mon intériorité, je me dis d'où je viens, en fait, en quelque sorte. Donc, mmh. il y a mon intériorité, et puis en même temps, mon passé là-dessus, et mon histoire. Et à partir de là, de me dire, c'est quoi qui prend racine à l'intérieur de moi? C'est quoi qui fait mon essence? C'est quoi qui fait ma sensibilité, ma créativité, mon originalité pure? Je veux dire, des comme toi, Sana, il n'y en a qu'une sur toute la planète, tu vois. Et si on t'écoute, si on te rencontre, si on va à la rencontre de ton histoire, on va découvrir ce que tu aimes. Ce qui éveille tes désirs, ce que tu aimes, ce qui te met en joie, ce qui te met en paix quand tu le fais. Et là-dedans, on va découvrir ton don premier, en fait, pour ce monde. Et il peut après s'incarner dans plein de domaines, mais là du coup on rentre dans une dimension qui est plus extérieure et qui est plus en lien avec l'avenir, notamment ta contribution à l'égard de l'avenir. Voilà, donc ça c'est la deuxième grosse polarité. Et puis la troisième, c'est que quelle que soit mon histoire, quelle que soit mon avancée dans le monde, c'est à quel niveau à quel niveau de relation suis-je à l'égard de l'environnement. C'est-à-dire comment je le reçois cet environnement. Est-ce que je le reçois dans un mode un peu de victimisation, où j'ai l'impression de subir le monde, quel qu'il soit, subir mon passé, subir mon avenir, subir le monde. Est-ce que je me sens un peu rebelle face à cette situation et du coup je prends ma place, mais avec parfois un peu d'excès dans ma rébellion? Est-ce que je suis dans une trame où au contraire, je vis quelque chose de plus serein, de plus coopératif, de plus positif, où là je sors un peu, si tu veux, des évaluations de type c'est bien, c'est mal, tu vois, mais j'accueille des choses avec plus de compréhension, plus d'accueil, en me disant bah, finalement tout ce qui arrive est finalement sain et positif et je peux co-construire avec. Et puis après il y a quelque chose de plus élevé encore qui fait pour moi, qui rentre dans l'espace de la spiritualité dans lequel je ne suis pas toujours évidemment et nous ne sommes pas toujours, mais auquel on aspire. C'est à un moment donné cette hyper, on pourrait dire, connexion que je peux avoir avec l'environnement qui lui n'est pas seulement quelque chose qui est bon pour moi, mais c'est quelque chose qui est extrêmement aimant à mon égard. En fait, en quelque sorte, il y a comme une reliance, quelque chose d'exceptionnel et qui fait que tout devient exceptionnel, en fait. Et là, on rentre dans un espèce de raffinement de cette interaction avec les gens, avec la nature, avec les animaux, avec quelque chose qui nous touche au plus profond de qui nous sommes, en fait. Que ce soit des situations difficiles ou des situations qui sont très bénéfiques, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce stade-là, en tout cas, quand j'en ai eu fait l'expérience ou quand je partage avec d'autres personnes sur ce niveau d'expérience, eh bien, il y a plus de... On ne sait pas dire si c'est bien ou pas. On est juste connecté à quelque chose... Enfin, si ce n'est qu'on prend un kiff de dingue, quoi. Mais, donc, il y a quelque chose d'un peu incroyable. Donc, voilà, tout ça, c'est pour replacer un peu, en quelques mots, la spiritualité. Alors, maintenant, comment ça s'incarne? Parce que tout ça, c'est joli, ça nous fait bien rêver, mais dans son quotidien, ça veut dire quoi? Et c'est ça qui, là, du coup, ça m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un, je suis un poisson, hein, nature, d'après les signes astro, mais je suis en même temps un taureau. C'est-à-dire, j'ai besoin de m'enraciner dans quelque chose, et je crois que je suis descendu pour ça, sur cette planète. Donc, j'aime bien l'idée d'être la tête dans les étoiles, mais j'ai besoin qu'on incarne des choses. Et pour moi, par exemple, les religions, j'ai grandi dans des communautés spirituelles, donc j'ai toujours été assez attentif à ces messages, qu'ils soient religieux, quels que soient les courants des religieux, et de me dire, mais finalement, comment j'incarne ça très concrètement dans mon quotidien? Et une des voies que je trouve qui est particulièrement intéressante, quand on ouvre un peu le champ de la connaissance de soi, et merci pour vos retours, là, parce que vous êtes nombreux à vous avoir votre chose.
Certains qui te découvrent aussi, comme Marjorie, qui nous remercie de pouvoir t'écouter ce soir, qui te découvre et qui gratitude. Malika aussi, qui est très contente. Après, on a des questions, on prendra aussi le temps de répondre dans un deuxième temps, comme tu le souhaites en tous les cas, Paul, hein, si tu veux qu'on fonctionne. Mais je pense que on pourra aussi le faire.
Ah, mais absolument, moi j'adore l'interaction, quelles que soient les origines, d'où viennent les questions. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir des interactions.
Okay.
Alors, ça pour finir, quand je parle d'incarnation, c'est de se dire, mais au fond, c'est quoi mes importants dans ce que j'aime vivre. Alors, en fait, par exemple, si j'aime, je sais pas, si je défends la bienveillance ou l'ouverture, c'est comment j'incarne ça. Et mon travail, ce qui me passionne beaucoup, c'est de passer de la valeur à l'incarnation de la valeur dans des comportements. Sachant que, par exemple, si je parle de bienveillance, comment aujourd'hui, si je prends du recul sur ma vie, que ce soit dans mes interactions avec mon conjoint, avec les gens quand je suis dans un grand magasin, alors pas quand les choses sont super chouettes et que tout le monde est heureux et qu'on se dit bonjour et que tout va bien. Non, quand il y a des zones de tension. Quand il y a des zones de tension, c'est là que je trouve que c'est intéressant. Tu dis, tiens, quel a été mon rapport avec mon enfant quand ça fait trois fois que je compte de venir et qu'il vient pas, et qu'on parle de bienveillance. Comment je vais arriver à incarner cette dimension dans une attitude? Et là, pour le coup, on parle bien d'un comportement, d'un micro-comportement qui me permette de vivre cette aspiration-là. Voilà, donc c'est ça que j'aime faire, c'est retraduire par des actes concrets, ce que j'appelle incarner, eh bien, ces aspirations, ce à quoi j'aimerais. Et évidemment, on est tous à la fois en zone lumineuse et en zone d'ombre dans le domaine. Et c'est ça qui est chouette, parce que quelle que soit son élévation, on a toujours des zones de lumière et des zones d'ombre, et quel que soit son niveau, quel que soit son niveau de développement, on a toujours les deux. Et c'est cet accueil des deux polarités que je trouve passionnante. C'est à la fois de s'accueillir dans nos fragilités et dans nos forces, c'est de s'accueillir dans notre lumière et en même temps dans notre ombre, c'est de s'accueillir dans ce à quoi on aspire en reconnaissant que parfois on n'est pas tout à fait à la hauteur, et voilà, et on grandit avec ça.
Génial, merci, parce qu'en même temps, ça me fait beaucoup penser à ce que tu viens d'exprimer avec ta vision d'échange globalement, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on voulait apporter aux auditeurs, notamment en termes des ateliers, et on voit que quand tu expliquais ces polarités intérieures, puis ensuite un peu plus d'ouverture vers les autres, c'est vraiment... en filigrane, là, c'est ce qu'on va vivre dans les ateliers, et c'est ce qui fait partie aussi de ton mode d'accompagnement dans ce que tu fais tous les jours. Hein, tu parlais de cette bienveillance, comment on peut l'incarner dans des difficultés. Tu me parlais, je me souviens bien, genre, on discutait tous les deux, d'action réflexe, comment on peut t'amener à mieux réagir, ou comment véritablement on agit avec bienveillance dans ces moments difficiles. Et je pense que cela fait partie d'ailleurs du troisième volet de l'atelier que tu vas proposer. Donc merci d'être dans cette incarnation pleine, parce que ça fait sens. Et ce qui fait sens, je pense, permet les réalisations.
Absolument. Justement, c'est quelque chose que je trouve de vraiment chouette. Souvent, on me présente, c'est mes stagiaires qui m'ont souvent présenté comme ça, un peu un allumeur de réverbère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a parfois des parcours ou des vies ou une culture qui ne nous a pas forcément éduqués sous l'angle de la considération, de la reconnaissance, de nos points forts, de nos qualités, mais plus souvent sur un mode où on voit plus les défauts, on nous invite à être toujours performants, on nous note beaucoup de l'extérieur, et donc du coup, on a une éducation. Enfin, moi, quand je regarde mon éducation scolaire, par exemple, toutes les réponses, toutes les évaluations ont été à 95% en fait de l'extérieur. Donc, j'ai pas forcément une éducation où j'ai appris à m'écouter, où j'ai appris à donner de la place. Alors, moi, j'ai eu cette chance d'être dans un environnement un peu particulier, dans cette communauté, où la dimension plus de l'être, on va dire, avait une place très importante. Donc,
j'ai eu en communauté.
Malheureusement ou heureusement, tout dépend sous quel angle on voit ça.
J'ai eu en communauté, hein, c'est bien ça.
Oui, j'ai eu en communauté de 0 à 14 ans, donc dans cette communauté dont tu citais le nom du fondateur, qui s'appelle Lanza Del Vasto. Alors, ça ne parle pas à grand monde, mais sachez que c'était un grand monsieur, Lanza Del Vasto. C'est un prince, en fait, à l'origine... sicilien qui était en quête de vérité, en quête spirituelle, et qui a décidé du coup de quitter en fait le monde de la richesse pour aller à la richesse intérieure, en fait, qui a énormément voyagé au Liban, dans le monde, etc. Et qui, dans son voyage, son périple, s'est arrêté en Inde et notamment a découvert Gandhi. Il a passé du temps, je crois, 2 ans avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde. Et donc, du coup, après, Gandhi lui a proposé de revenir en France pour justement agir dans son propre pays, puisque nous étions un peu à la montée des... C'était l'après-guerre, quoi. Il y a eu, après la guerre d'Algérie qui est arrivée, tout ça, il y a eu pas mal de choses qui se passaient en France. Et plutôt que lutter contre la non-violence, la voie de la non-violence, c'est éveiller les consciences, en fait. Et donc, du coup, lui, il est revenu en France pour son enseignement. Et puis, il y a des gens qui ont décidé de faire de son enseignement plus un art de vivre. Mmh. Et c'est comme ça que mes parents sont rentrés dans cette communauté. Moi, je suis né à son départ. Parce que la communauté, j'avais 2 mois, elle venait juste de démarrer. Et puis, j'ai vécu mes 7 premières années sur les plateaux du Larzac. Parce qu'à l'époque, c'était la grosse défense des paysans du Larzac. C'était la grosse mobilisation. Donc, ça parlera peut-être pas beaucoup aux gens qui sont ici aujourd'hui, mais il faut savoir que c'était un mouvement qui était particulièrement important, puisque le Larzac a failli être investi par des ambitions militaires, consistant à virer tous les paysans et à faire une grosse centrale. Donc, il y a eu énormément, c'était un peu... C'était la résistance, mais en version non-violente. Voilà, donc, il y a eu des mouvements très importants à ce moment-là. Et moi, je suis né un peu là-dedans. Et puis après, mes parents sont montés à Grenoble parce que mon père avait été fort sollicité puisqu'il a été un des grands leaders en France des mouvements non-violents, de fait. Et du coup, la ville de Grenoble avait sollicité parce que c'était le moment où on ouvrait un peu les cités dortoirs. On est un peu revenu là-dessus, mais 7000 logements, 7000 familles qui arrivent de tout horizon. Et mon père était un peu dépassé, d'ailleurs, pas par ça. Et on s'est rendu compte quelques années après que ce n'était pas forcément une très bonne idée, mais c'est comme ça que sont nées les cités.
Ouais.
Et voilà. Et donc, du coup, le passage en cité a été très important parce que là, il y a eu un opposé complet. C'est-à-dire que je me suis confronté à beaucoup de violence. Donc, j'ai découvert que le monde ne m'aimait pas tant que ça, en fait. Et que du coup, il fallait se battre, en fait, pour exister. Donc, c'est là où j'ai été, je pense, intérieurement, dans beaucoup d'insécurité. Pour faire face à cette insécurité, j'ai dû sortir des stratégies pour faire face, quoi. Donc,
bien sûr.
Ça m'a gardé, après, intérieurement, alors, certaines blessures sur lesquelles j'ai dû revenir par la suite. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur cet aspect-là, mais peut-être pour dire que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'évolution des personnes, c'est cette confrontation à des situations qu'on vit comme des crises, en fait. Parce que je suis absolument certain que ces crises sont là pour nous faire grandir. C'est un peu comme arrivé au bout de 9 mois dans le ventre de maman, il y a des contractions très fortes de l'extérieur. Ça va me pousser à faire quelque chose qui n'a rien de facile, hein, puisque c'est assez traumatisant ne serait-ce que de naître. Et après cette naissance, cette renaissance, on va y avoir droit tout au long de notre vie. On va devoir se positionner, s'engager, se réaliser, aussi boucler des choses pour redémarrer. Et c'est ainsi le cycle de la vie. Et je crois que toutes les crises, celles qu'on vient de connaître dans ces années précédentes, cette année précédente là, a été aussi l'occasion de révéler, je pense, beaucoup de personnes. Alors malheureusement, dans toute crise, il y a ceux qui s'écroulent un petit peu et puis il y a ceux qui rebondissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'on rebondit, en fait. Je crois que c'est beaucoup lié à cette qualité d'interaction qu'on a avec l'environnement. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce que je voudrais parler dans les fameux ateliers qu'on va avoir ensemble.
Mais carrément.
Et du coup, comme je te le disais en aparté, je recentre, en fait, ces leviers de développement personnel autour de 5 dimensions.
Tout à fait.
Que je te propose, si tu as envie qu'on aborde.
Oui, alors juste avant qu'on les aborde, si tu veux bien, je pense, parce que là, on est encore vraiment sur ce fil, Julie qui nous dit, on nous parle souvent qu'il faut se connecter à son cœur. C'est pour moi compliqué. 3 petits points. Quelle est votre vision par rapport à cette affirmation?
Alors, c'est une excellente question, Julie. C'est une excellente question. En fait, la difficulté, c'est que si quelqu'un trouve qu'une chose est compliquée, c'est qu'il l'aborde évidemment principalement par sa dimension mentale. Alors, il faut faire la différence entre ce dont j'ai conscience et ce dont je ressens. Première étape. Et pour ça, Julie, on va faire un exercice tout simple et on peut tous le faire ensemble. Si par exemple, je me pose des questions sur ce que j'ai à faire demain, à l'égard d'une personne, une situation que j'ai à gérer, quoi que ce soit, je peux me pencher en avant, comme ça. Et vous allez voir, je vais vous proposer de vous mettre dans la posture dans laquelle vous seriez si vous étiez préoccupé. Vous allez voir que quand vous êtes préoccupé, vous croisez un peu les bras devant, vous penchez un peu de l'avant, c'est votre tête qui va travailler. Et si vous êtes soucieux, c'est encore pire, parce que vous allez carrément mettre la main sur le front, comme ça, vous frottez.
C'est vrai.
Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et vous voyez, c'est intéressant de voir comment votre corps physique, énergétique, émotionnel, bien sûr, on pourrait dire aussi mental et même spirituel, dans quel monde tout ça est en train d'entrer. C'est un monde de fermeture, de réflexion, de retour sur soi, c'est un monde qui pèse. Enfin, voilà, si vous faites l'expérience, je propose de mettre comme ça en quelques mots comment cette posture arrive. Et je vais arriver bientôt au cœur, hein, parce que pour l'instant, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe en état de stress et pourquoi on monte si vite dans le mental. Parce qu'une fois qu'on a repéré ça, je vais vous proposer d'ouvrir un autre canal. Et là, vous allez voir, c'est l'accès qu'on va trouver au cœur. Mais avant, pour que l'expérience, parce que ce n'est pas ce que je vous raconte qui compte, c'est l'expérience que vous allez en faire. Je propose simplement de vous mettre dans cette posture. Et puis, si vous êtes d'accord, de dire, quand vous êtes dans cette posture, comme ça, peut-être la main sur le front, à vous demander ce que vous allez faire demain ou quoi que ce soit, ou ce que vous allez faire de votre vie, ou n'importe quel problème auquel vous pensez, voilà, une difficulté que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire face à ça. Un, vous êtes dans le faire. Et deux, vous êtes dans le questionnement. C'est la tête qui travaille. Alors, si vous êtes là-dedans, si vous mettez là-dedans, vous pouvez me dire, en fait, quand vous êtes là-dedans et que vous pensez à votre problème, qu'est-ce que automatiquement vous ressentez à l'intérieur ? Et si vous avez envie de le partager, vous pouvez l'écrire. Qu'est-ce que je ressens ? C'est-à-dire, quand, dans cette posture, à quoi je pense ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les mots qui me viennent ? En général, on va voir, je me sens lourd, je sens que ça pèse, ça me prend un peu la tête, hein, voilà. Une fois qu'on est bien là-dedans, ça fait un petit moment qu'on y est, là, je vais vous proposer qu'on sorte de ça, parce que sinon, on va déprimer. D'ailleurs, tu sais qu'on ne fait pas un déprimé du jour au lendemain, il faut s'y mettre, il y a des stratégies. Il y en a une qui est très bonne, c'est celle-ci. C'est de rester là-dedans, des années. Voilà. Et là, c'est, oui, certains disent, mais médical dit, c'est l'angoisse, je suis fermé, je me sens lourd, etc. Alors, votre énergie se tasse, votre voix se tasse, votre dialogue interne se tasse, vos pensées se tassent, etc. C'est pas bon pour la santé à long terme. Maintenant, regarde, redressez-vous. Inspirez par le nez. Souriez. Et dites trois fois, comme ça, merci, mais dans votre tête, comme ça. Vous inspirez. Oui. Vous souriez et vous dites merci. Voilà. J'inspire. L'expiration, c'est très important parce que l'expiration, c'est le moment où je me relâche.
Le souffle. Voilà.
Vous savez, c'est comme vous rentrez d'une journée bien chargée, vous asseyez sur. J'inspire et, voilà. Et je souris peu à peu et je dis merci. Voilà. Quand vous aurez respiré deux, trois fois et que vous dites merci, vous allez monter votre centimètre intérieur. Là, c'est comme s'il y avait un soleil à l'intérieur et vous vérifiez que vos épaules sont légèrement plus en arrière qu'au thorax. Enfin, que ça tire légèrement en arrière. Vous inspirez, vous souriez jusqu'au moment où vous sentez briller de l'intérieur. Et là, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, automatiquement, vous allez vous sentir probablement plus léger, plus ouvert, plus détendu, plus je ne sais pas quoi. Et votre esprit se dégage. Qu'est-ce qui y rentre ? C'est la place du ressenti. La place du ressenti, du sourire. Et là, pour répondre à Julie, on se rapproche de la sensation. On se rapproche de ce que le corps ou le cœur me dit. Et être à l'écoute de l'âme, c'est quelque chose qui demande une écoute fine. Ce n'est pas une grosse voix qui nous parle, l'âme. C'est quelque chose de plus subtil qu'on touche dans cette qualité d'être. Voilà. Et moi, j'aime bien me dire, qu'est-ce que dit ma tête ? Qu'est-ce que me dit, ou qu'est-ce que dit parfois l'insécurité ? Parce que ma tête, elle est là pour réfléchir face à l'insécurité, quoi faire. Et quand je me redresse, je vais me dire, qu'est-ce que dirait l'amour ? Qu'est-ce que dirait ce que je ressens ? Voilà. Et on sent tout d'un coup qu'on n'est pas dans le même niveau. Quelque chose en bas. Voilà. Et pour accentuer mon expérience, je peux vous proposer par exemple de visualiser un escalier de 150 marches. Vous êtes au pied de l'escalier et vous remettez en avant. Voilà, si vous remettez en avant, voilà, un peu légèrement courbé en avant, un peu comme si vous aviez les bras croisés comme ça, et vous dites, il faut que j'attaque les 150 marches. Et là, vous dites, si on peut y aller dans 5 minutes, Polo, c'est bien. Vous inspirez, vous souriez et vous regardez 150 marches. Est-ce que tu sens ça là?
Ouais.
La différence
là, je peux les gravir, sans problème.
Quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui change au niveau de ton cœur, de ton esprit. Et donc, si on allait voir dans ta psychologie interne, dans ta neurophysiologie, ben, il y a un moment qui est en train de se transformer. Donc, pour s'ouvrir au cœur, à ce que dit notre âme, Julie, ça suppose de lâcher un peu l'esprit et de redescendre dans cet instant présent ici. D'accueillir ce qui se passe ici. Voilà. Et il y a des tas de moments où vous le vivez. Vous savez, quand on dit « Ah, je le savais. Je m'en doutais. Ah, j'ai dit ça, mais je le savais. » Ça montre, en fait, en quelque sorte, que de temps en temps, vous êtes connecté à ce truc-là et peut-être même plus souvent que vous l'imaginez. Et je crois que c'est cette dimension-là qu'il faut accueillir, ouvrir, et puis vivre un peu avec. Voilà. Vivre avec, dire, c'est le ressentir, en fait. Rentrer dans le ressenti. Voilà peut-être la première façon que je proserais pour se réouvrir, en fait. Et puis l'âme, ça vient de... Enfin, c'est l'amour, hein, c'est ce qui... C'est là que vient le feu intérieur, c'est là que vient notre énergie. Donc, on va en parler d'ailleurs dans les différents axes que je vais...
Mais oui, je sais, c'est justement ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, au-delà de cette expérience, merci hein, d'ailleurs de nous la faire vivre là en direct, c'est qu'en fait, c'est une petite expérience qu'au bout du compte, tu amènes plus profondément avec tous ces axes-là. Parce que, comme tu disais, c'est quelque chose aussi qui doit qui prend du temps, autant dans les postures comme celles qu'on a vécues. L'autre aussi, ça demande aussi une forme d'exercice, entre guillemets, si je peux me permettre le mot, mais qui passe aussi par des étapes. Et ces étapes, vraiment, je pense que les auditeurs seront très intéressés parce que vous verrez qu'elles ont leur utilité. Et puis, j'adore la symbolique que tu fais avec les mains et à quel point... L'auriculaire a son rôle à jouer, j'en dis pas plus. Je vais te laisser effectivement t'exprimer autour de cela parce que ces cinq principes tournent aussi également autour de cette question. Comment accomplir sa mission sur Terre?
Absolument.
C'est tout ça aussi qu'on a, alors, on l'a nommé comme ça. Oui. Ouais.
Alors du coup, on peut en faire le tour. Oui. Le premier point, je vais commencer par le pouce. Le pouce qui renvoie au one. Hein, vous savez, et vous faites instinctivement, c'est-à-dire que quand vous dites que quelque chose est top, vous faites ça en fait. Waouh, cette relation elle est top, j'ai trouvé un meuble, il est top, ce restaurant il est top, cette personne elle est top. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'instinctivement, votre corps est en train de vous dire ce que je perçois, c'est exactement ce qui correspond à mon système de valeurs internes. Et donc, du coup, le corps se redresse d'ailleurs automatiquement. Ah, il y a des vacances, c'est top. Ah, je vais revoir cette personne, c'est génial. Ah, on y va quand même, c'est super. Paf, j'ai envie de faire ça. Et automatiquement, mon corps se redresse. Mmh. Donc, c'est déjà intégré dans votre logiciel. Il n'y a pas grand-chose à apprendre, juste à repérer. Et tu sais, dans l'Antiquité, je crois qu'on faisait ça, quand on mettait...
Oui. C'est ça, dans les gladiateurs.
Et c'est la première polarité sur laquelle on va éventuellement avancer dans le cadre des ateliers que nous ferons, mais c'est la dimension des valeurs. En fait, quand vous faites ça, on retrouve derrière, pour moi, la première symbolique, qui est le cercle. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un gros challenge sur 15 jours, et je montrais, en fait, 5 symboles qu'on va relier à nos petits doigts. Et le premier, c'est le cercle, c'est-à-dire, au fond, quand je suis dans mon rayonnement, quand je suis dans ma paix intérieure, quand je suis dans mon équilibre avec moi-même, avec toutes les parties de moi-même, avec mon environnement, je suis en harmonie. Et harmonie, c'est cette adéquation qu'il y a entre ce que je suis, ce qui est mon environnement, ce qui est... Et même quand il y a des décalages avec ce que j'attends, c'est me remettre en harmonie, c'est-à-dire en capacité d'accueillir, non pas de rejeter, de me plaindre, mais au contraire d'accueillir, voire de valoriser, voire même de bénir les situations. Donc, d'accueillir ce qui est, voilà. Donc, la méditation nous y invite, il y a plein de façons de le faire, pour revenir dans cette présence à soi. Et ça, c'est un premier axe important sur lequel je crois qu'il est important d'avancer quand on veut retrouver sa mission de vie. Parce que c'est peut-être le pilier le plus important, c'est le numéro un. C'est qui je suis, quels sont mes systèmes de valeurs, d'où je viens. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? C'est quoi qui fait mon originalité dans le don, dans le service, dans la contribution que j'ai envie d'apporter? Et c'est pas forcément pour faire des trucs incroyables, hein. Ça peut être simplement à l'égard des enfants, à l'égard de mon conjoint, à l'égard de mon jardin, à l'égard des animaux que j'ai à la maison, à l'égard des gens que je croise dans la rue, à l'égard de ma boulangère quand je lui dis bonjour le matin, à l'égard de mon garagiste qui de temps en temps s'occupe de mon véhicule. Qu'est-ce que j'ai envie de donner? À quoi j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce qui fait partie de ma sensibilité profonde et qui donne du sens à mon quotidien? Parce que le sens de sa vie, ça commence dans son quotidien. Voilà, donc dans ce double équilibre, plus je vais à la rencontre de ce qui est important à mes yeux, dans ma manière de manger, dans ma manière de bouger, dans ma manière de penser, dans ma manière d'être, en fait, en quelque sorte, plus je me définis, en fait, en tant que personne et en tant qu'être, de ce que j'ai envie d'être, de vivre et de partager, en fait. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Et au cœur de tout ça, on y trouve effectivement le cœur. Se connecter à son cœur permet évidemment d'accéder, comme le souligne Julie, à son cheminement et donc par conséquent à son chemin de vie. Parce que son chemin de vie, c'est un cheminement permanent, c'est-à-dire, et dans le chemin, il y a cheminé. Et le cœur de la cheminée, c'est notre être, notre essence. Et là, quel que soit ce qu'on va devenir, l'important, c'est quelle fonction on va prendre. Et quelle que soit la situation qui peut nous arriver, on verra chez tous les grands leaders, sont passés par là. Vous prenez Mandela qui a fait 28 ans de prison, mais à sa 26e année, il vous disait que c'était l'homme le plus libre du monde. Pas le libre de sortir de sa chambre, de sa pièce de 3 mètres sur 3, mais libre de penser, libre de respirer, libre de penser l'avenir, libre de pardonner. Enfin, il y a énormément de choses comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se joue en interne, qui est très fort et qui peut grandir beaucoup parce qu'on a été bien accompagné dans cette voie. Et il y a plein de voies pour y accueillir. Donc ça, c'est la première grosse polarité. Hein, c'est ce qui va forger mon identité, ma mission, mes valeurs, ma raison d'être au monde et qui n'en finit jamais, en fait. Parce que alors moi, je suis toujours la même personne, mais je grandis en âge. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir en moi toujours ce jeune homme parfois de 25 ans, même si j'ai plus de 25 ans, mais j'ai une énergie. Et ce que je trouve intéressant, c'est de sentir le pourquoi je me réveille le matin, pourquoi je suis heureux d'être ici. Et je crois que plus on connecte à cette dimension, qui est pas seulement dans sa tête, mais dans son cœur, dans son corps physique, son corps énergétique, son corps émotionnel, son corps mental et spirituel, plus on met des mots là-dessus, plus on met de la conscience, plus on met du raffinement, plus du coup ça va devenir en quelque sorte une boussole de vie considérable pour se rééquilibrer, parce que la vie, elle est toujours faite de choses qui vont nous plaire et de choses qui vont pas nous plaire, qui vont nous bousculer. Et c'est comme ça qu'on va rentrer. Alors, concernant les hypersensibles, parce que je vois qu'il y a une belle question concernant les hypersensibles.
Très belle question. Que pensez-vous des personnes hypersensibles? Question intéressée, car je le suis et je cherche des outils pour vivre dans ce monde.
Alors, les hypersensibles, je vais vous dire un truc, c'est que le club va devenir de plus en plus grand et vaste. D'accord? Donc, il y a 10 ans, on parlait peu des hypersensibles. Aujourd'hui, on en parle de partout. Les années, il n'y aura que des hypersensibles. En fait, pourquoi? Parce que notre sensibilité, elle est condamnée à évoluer. Donc, il y a des gens qui vont un peu plus vite que d'autres. Il y a des gens qui arrivent avec un appareillage plus éveillé encore que d'autres. Donc, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est la capacité à connecter avec des niveaux de sensibilité qui sont évidemment plus élevés. Et donc, par définition, vous avez un champ d'information qui est beaucoup plus important. Vous pouvez passer d'un truc à l'autre, vous avez besoin de passer d'un truc à l'autre, vous avez beaucoup d'informations. Donc, il vous est demandé, vous les hypersensibles, à tout le monde, ça va être important, mais de revenir de plus en plus sur le cœur de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de ce pourquoi vous êtes là, de façon à ne pas se laisser submerger, comme on l'a de l'information qu'on reçoit. On a une masse d'informations aujourd'hui qui est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Parce que sur son téléphone, moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'ai tombé sur un article où les gens ouvraient 10 fois par jour leur téléphone, 10 fois par jour. C'était déjà énorme.
Énorme.
Par jour, aujourd'hui.
80.
10 minutes par jour, ça, c'est l'inverse.
L'inverse, carrément.
Donc, on a une masse d'informations qui est considérablement plus importante. Donc, on nous invite, cette masse d'informations extérieure, à nous descendre en profondeur pour faire un choix de sélectionner ce qui nous semble le plus important et aussi de s'éveiller à la modalité avec laquelle on va interagir avec l'environnement. Donc, les hypersensibles, moi, je vous en conseille encore plus que les autres de faire du développement personnel pour apprendre à comprendre comment cet appareillage fonctionne, tête, cœur, corps, enfin, système nerveux, quoi, en gros, et comment vous pouvez entrer dans une interaction de plus en plus constructive, éveillée et en cohérence avec ce qui vous semble le plus important. Parce que ça va être votre sol de base, en fait. D'accord ? Donc ça, ça revient vraiment au premier pilier. Ça va être un des premiers piliers, il y en a cinq. Donc voilà, c'est le pouce. Si vous êtes d'accord, je propose de dire comme ça, s'il y avait justement une valeur importante, comme ça, qui vous définit. Quelle serait cette valeur ? Ce sera une façon comme ça de mettre un mot sur ce premier pilier. Qu'est-ce qui vous définit ? Alors, il y a plein de choses qui vous définissent, mais pourquoi s'il y avait un mot comme ça qui vous définit, ou une phrase ou deux, comme ça, qui vous définit vraiment, comme ça, en termes de valeur. Une valeur vraiment importante, ce serait quoi ?
Est-ce que c'est, dites-nous dans le chat si une valeur qui vous porte. Non,
c'est très important. C'est transmettre, ça, c'est très important. C'est pouvoir aussi inspirer, c'est pouvoir soutenir, aider. C'est pouvoir profiter de la vie sous tous ses angles, c'est pouvoir célébrer. Ça, c'est des ensembles d'éléments comme ça, de valeurs qui me définissent. La présence à moi-même, le fait d'être porté par un avenir qui m'anime, le fait de prendre des responsabilités dans la vie, le fait d'être relié à des gens que j'aime et avec lesquels je vais interagir, le fait de rebondir de plus en plus sur des situations, d'apprendre, ce sont des valeurs qui me définissent un petit peu. Voilà, donc, si vous avez quelques valeurs comme ça, je trouve que c'est intéressant.
Carole qui nous dit l'écoute.
Voilà, écouter, par exemple. Alors, écouter, on va voir que c'est une action.
Ok.
Une action à laquelle vous mettez de la valeur.
Oui.
Hein.
C'est vrai.
Par exemple, être dans la présence, pour accroître la qualité de présence, je vais écouter. Hein. Par exemple, écouter, je vais être attentif, je vais, etc. Ok, alors ça, c'était le premier pilier. On peut passer peut-être au deuxième.
Bien sûr, bien sûr.
Le deuxième, alors on va continuer avec les doigts de la main. Le deuxième, il s'appelle, c'est ce qu'on appelle
l'index.
L'index, qui est là pour intuitivement être utilisé quand on cherche une direction, qu'on indique une direction, c'est par là.
C'est vrai, c'est vrai. On va cibler quelque chose aussi.
Oui, on va cibler quelque chose. Donc, derrière ce deuxième doigt, j'y mets un deuxième symbole. Moi aussi, c'est le triangle, hein, c'est le focus. Où est-ce que je veux aller ? Une fois que je sais pourquoi je suis né, eh bien, quelle est la vision que je vais avoir à l'égard des autres pour ça ? Si, par exemple, je suis là pour enseigner, ou je suis là pour accompagner, ou je suis là pour soigner, je me dis, hop, OK, à partir de là, c'est quoi ma vision ? Ma vision, c'est avec qui et pour apporter quoi ? Voilà. En gros, et éventuellement dans quel contexte ? Qui ? Ça peut être, je sais pas moi, des enfants, ça peut être des managers, ça peut être des personnes en conversion d'emploi, ça peut être des gens qui s'intéressent à qui sont préoccupés par telle thématique, par exemple le couple, l'éducation, quoi que ce soit, bref. Et je me dis, voilà, mon projet, c'est de pouvoir apporter telle chose à ces gens-là. En gros, ces gens ont telle difficulté et ils voudraient aller vers tel type de solution. Et plus je vais être clair sur, justement, à partir de mon expérience, à partir de ma sensibilité, à partir de ce qui me semble important de faire et d'apporter, comment je peux, justement, servir ces personnes-là. Donc, c'est comme ça que ma vision va se constituer. Ma vision, au plus large, c'est mes rêves. À quoi je rêve demain ? Dans ma vie de couple, à quoi je rêve demain ? Dans ma santé, à quoi je rêve demain sur un plan financier, à quoi je rêve demain sur... le plan de ma famille, à quoi je rêve demain, sur mon lieu de vie. Et plus je vais être focalisé sur cette vision, en fait, plus je vais pouvoir bâtir des visions, ou rêves, visions, projets, objectifs, et puis enfin priorités. Ce qui est très intéressant, c'est que, quelle que soit l'ambition de ma vision, l'important, c'est que les prochains pas que je fasse soient cohérents avec ce vers quoi je vais. Tu vois ? Et c'est ça qui va me rendre heureux finalement. Alors, je peux être connecté à un avenir qui m'anime, mais le plus important qu'on va découvrir, c'est le chemin pour y aller. Et c'est vrai que si j'ai une ambition demain de contribuer à amener des gens à s'éveiller dans tel ou tel domaine, j'ai envie de me former pour ça, j'ai envie d'être artiste, j'ai envie d'avancer, de rencontrer des gens pour aller vers cette ambition-là. Et parfois, je ne sens pas trop l'ambition, c'est pas grave, j'écoute ce que dit mon cœur, ce que j'aime faire, je le fais. Si j'aime écrire, j'écris. Si j'aime chanter, je chante. Ça, c'est plutôt au niveau de la valeur et du don. Et puis après, peu à peu, il y a des projets qui vont naître. Pourquoi ? Parce que je vais avoir envie d'aller dans telle direction, de rencontrer telle personne, de travailler dans tel contexte. Et c'est comme ça que la vision va se construire. Et c'est pour moi le deuxième axe. Et dans cette notion de vision, il y a surtout cette capacité à orienter son attention sur des solutions. Là, pour le coup, c'est très important. Je suis en conflit avec mes enfants parce qu'ils laissent toujours traîner leurs chaussures dans l'entrée. Il y a une grosse différence entre leur dire « j'en ai marre que tu laisses traîner tes chaussures » et bien, tu sais, quand tu prends tes chaussures, que tu les ranges ici et ici, regarde comme c'est différent. Et si tu ne vois pas en quoi c'est différent, bah parlons-en. Tu vois ? Et quand je te demande, par exemple, d'arriver à l'heure à table, est-ce qu'on peut échanger ensemble sur pourquoi c'est important, en fait ? Plutôt que crier sur « mais pourquoi tu n'es jamais là ? Pourquoi je ne peux pas compter sur toi ?» etc. Quand tu me ramènes une mauvaise note, okay, et si on mettait l'accent sur, au fond, si on voulait avoir une meilleure note, selon toi, d'abord, est-ce que c'est important ? Et selon toi, quel enjeu on pourrait prendre ensemble ? Donc, tu vois, il y a un gros virage à prendre en termes d'éducation.
Bien sûr, et de communication.
Quand tout va bien, on le fait tous, hein, c'est assez facile, tout va bien. Non, c'est quand les choses vont mal, tu vois. Je viens de rater mon train, donc je suis sur le quai de la gare avec ma valise, le train s'en va. Du coup, j'ai raté mon avion, parce qu'il devait prendre un avion, tu vois. Et puis, du coup, je perds mes 3 semaines de vacances, je ne sais pas, à Tahiti, par exemple, tu vois. Les vacances, ça commence à faire une perte lourde. Et là, c'est intéressant de voir combien de temps je passe à rester sur le problème. Sur bon, ben, qu'est-ce que j'apprends de ça, qu'est-ce que je vais faire de ça, comment je vais construire maintenant à partir de ça, etc. Et peut-être découvrir quelque chose de beaucoup mieux qui m'attend d'ailleurs au passage.
Mais, très certainement. Là, il faut avoir les solutions. Il faut ouvrir les solutions.
Ce qui est chouette dans la vie, c'est que, en fait, ce que je trouve de génial dans cette vie, c'est que, quels que soient les choix qu'on fait, les bons ou les moins bons, on aura quelque chose à tirer de ça.
Tout à fait.
Donc, au fond, on ne peut pas se tromper. On peut faire des mauvais choix, mais la réalité, c'est que si on fait des mauvais choix, c'est des enseignements qu'on va en tirer qui vont nous indiquer sur, justement, par la suite, comment faire mieux. Bref, donc, en tout cas, cette deuxième chose, c'est être orienté sur des solutions, oser rêver, oser se dire, mais finalement, si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? Donc, c'est accepter aussi que ça ne se passe pas toujours très bien. Parce qu'on a tendance assez fâcheuse à dire pour l'instant ça va. Hein. Mais au fait, si on voulait plus, ce serait quoi, en fait ? Et voilà, de se connecter aux solutions auxquelles on aspire. Donc ça, c'est l'index, tu vois. Et on va bien sûr dans l'atelier, puisque le premier gros atelier qu'on va faire, c'est cette adéquation entre notre système de valeurs et la faculté à se mettre dans des solutions. Donc il y a des exercices pratiques que je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui, mais. Et qui permettent comme ça de prendre n'importe quelle situation qui se répète un peu pour avec le même problème. Et puis, vous allez voir comment on peut réagencer le cerveau, le système nerveux. Donc, quelque chose de plus, beaucoup plus positif, en fait, et qui, du coup, vous permet d'accéder à des ressources plus grandes, ce qui va arriver au troisième point.
Ouais.
Troisième axe. Le majeur. Alors, le majeur, ça fait, quand on se dit, tiens, majeur, ça renvoie à quoi ? Majeur, majorité. La majorité, c'est quoi ? C'est quand on devient responsable. C'est-à-dire qu'on est libre de choisir, mais en même temps responsable. Donc, c'est chouette d'être libre de choisir, mais ça ne va pas sans la responsabilité. Donc, c'est pour ça que la liberté, elle va avec la responsabilité. Et plus je vais avoir pris de responsabilité dans ma vie, plus probablement j'aurai un accès à une liberté grande, en fait. Parce qu'on peut être libre de faire tout et n'importe quoi, mais le problème, c'est une liberté qui nous conduit un peu nulle part. On peut être libre, hein, en vivant dans la rue, sous un pont. On est libre, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on a le confort qu'on attend ? Pas forcément. Donc, moi, j'aime bien la notion de liberté quand elle correspond réellement au fait que j'ai des choix de faire ce que j'aime, de nourrir. Je crois que c'est important de revenir là-dessus. Et dans la spiritualité, du coup, s'affranchir de sa mission, c'est aussi de se dire, au fond, c'est quoi ma réalisation, en fait ? Comment j'évolue ? Comment je construis ? Comment cette ambition, elle s'incarne aujourd'hui dans mon comportement, en fait ? Et c'est là que commence la responsabilité. C'est Deepak Chopra qui parle de la loi du karma. On retrouve, nous, dans notre langage, qui est un peu cette loi de cause à effet. Dans les entreprises, on parle de Kaizen. Kaizen, c'est l'amélioration constante.
D'accord.
C'est un peu ça le karma, c'est se dire que tant que je n'ai pas évolué dans mon comportement, j'aurai toujours le même problème, en fait. Donc, parfois, on met trop l'accent sur le problème. Or, en fait, si je prends par exemple le problème d'argent, le manque d'argent, hein, ou le manque de relations, ou les conflits permanents, en fait, souvent, on met l'accent sur le problème en centrant sur le résultat. Or, en fait, j'ai le regret de rappeler que le résultat n'est jamais un problème. Le manque d'argent n'a jamais été un problème. Ce qui est le problème, c'est les comportements que j'ai mis en place régulièrement, souvent inconscients d'ailleurs, mais qui font qu'aujourd'hui, j'ai un problème d'argent, ou j'ai un problème peut-être que je suis seul, ou que j'ai un problème de manque d'énergie. Mais le manque d'énergie n'est pas le problème. Tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais, je vois très bien.
Voilà.
Il y a une source, et puis très souvent aussi, il y a le transgénérationnel qui joue là-dedans aussi.
Alors, évidemment,
on parle aussi de ça.
Wow, absolument. Et donc, il y a l'histoire qui m'a été forgée, et puis il y a celle que je décide de reconstruire. Et c'est ça, le karma. Éventuellement, avancer sur son karma, pour moi, c'est d'évoluer sur ses comportements. Mmh. Voilà. Ce n'est pas le résultat que j'attends. Le problème n'est pas le résultat, mais le comportement que j'ai mis en place. Mmh. Si, c'est ce que je trouve intéressant. Et à partir de là, ça, c'est très intéressant parce que, d'abord, je ne me définis plus par les résultats que j'ai obtenus ou les échecs que j'ai obtenus. Parce qu'on va le voir dans le quatrième pilier, les ressources sont infiniment plus vastes que les résultats qu'on obtient. C'est-à-dire qu'on a tous en nous le potentiel de jouer au piano, c'est pas pour autant que tout le monde le fait. On a tous le potentiel, pour autant qu'on en ait envie. Donc, notre vie, elle est calibrée sur la conséquence de l'ensemble de nos comportements. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de reprendre la responsabilité par rapport à ça. Mmh. Et ça, pour moi, ça m'ouvre spirituellement à une vraie question intérieure. C'est parce que parfois, il y a une tendance un peu à remettre le pouvoir à l'extérieur. Ah oui, il y a des cultures qui le font très bien. Ah oui, mais tu comprends, c'est le ciel, c'est je sais pas quoi, c'est l'histoire. Tu disais, c'est mes parents, c'est mais où je viens de là, ou etc. Mmh. Donc, tu sais, c'est les deux frères jumeaux. Je sais ce que c'est, j'ai un frère jumeau, d'ailleurs, qui est déjà venu ici.
Oui, tout à fait.
Où il y en a un qui est dans le couloir de la mort, quoi, parce qu'il a condamné, etc. En plus, il a passé sa vie dans la drogue, l'alcool, machin, etc. Il a fini par faire des meurtres, etc. Et puis l'autre, qui est lui, au contraire, extrêmement développé, qui s'est complètement réalisé, qui a la tête d'une grosse infrastructure, qui a monté une compagnie de soutien des pauvres, etc. Qui a réussi non seulement socialement, mais financièrement, etc. Et puis on dit, mais attends, comment ça se passe? Vous avez eu la même éducation, vous venez du même endroit, et pourtant vous avez des vies si différentes. Et ça, c'est chouette de repérer ça, c'est parce qu'il y a bien sûr notre histoire, il y a bien sûr notre sensibilité, mais il y a tout ce qui nous est arrivé et ce qu'on a décidé d'en faire. Et c'est ça le cas. C'est qu'est-ce que je décide de faire de la rencontre que je vais avoir demain matin avec celui qui tient l'hôtel dans lequel je suis et avec qui je vais interagir. Quelles sont les interactions que je vais décider d'avoir avec les gens que je vais rencontrer, que je vais croiser demain quand je vais animer? Quelles sont les interactions que j'aurai la prochaine fois que je vais appeler mes parents? Et c'est dans cette responsabilité d'action, de forme, d'attitude, que réside pour moi la véritable destinée. Et tout à l'heure, tu parlais de réflexe réussite, et c'est exactement l'enjeu pour moi. C'est comment je pourrais développer des micro-attitudes qui soit plus axé sur les valeurs et sur les projets qui sont les miens. Mmh. Et c'est là que la responsabilité prend tout son sens par rapport aux valeurs et à notre projet.
À la vision, oui. Mmh.
La responsabilité. Pour moi, c'est le troisième pilier important dans ma vie. Oui, vas-y.
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, ce que tu mets en évidence, c'est quelque chose aussi qu'on vit et des questions qui sont très souvent aussi posées par les auditeurs autour des schémas qui se reproduisent, autour des blessures qui nous enquiquinent, un certain nombre de choses qui se répètent. Et très souvent, on va aller chercher l'extérieur, effectivement. Donc, ce que tu dis là, en plus d'être pertinent, je pense que c'est vraiment quelque chose de déclencheur qui va vraiment permettre de se mettre en action et de déclencher vraiment cette réalisation, cet allègement, cet alignement, et donc d'être pleinement aligné et de pouvoir effectivement avoir cette ouverture de faire ce qui est décidé pour nous, quoi. Enfin, ce qui est notre mission, quoi.
Absolument. Ouais. Voilà, et donc c'est cette attitude que je vais développer. Par exemple, Marjorie nous dit une chose intéressante, elle dit, merci pour cet exercice, donc merci Marjorie, l'ouverture du cœur, la plus belle expérience vibrante que j'ai vécue, l'amour inconditionnel est magique, est-ce que sa mission peut être juste de diffuser de l'amour sur la Terre? Alors oui, Marjorie, ça c'est ce que j'appelle une ambition, d'accord? Donc là on est dans le premier pilier. Mmh. Le deuxième pilier, Marjorie, si on veut aller plus loin, c'est de se dire, mais au fond, ok, j'ai envie de diffuser de l'amour, mais à qui et pour obtenir quoi? Et c'est là qu'on va pouvoir passer dans une deuxième dimension qui va permettre, là pour le coup, de la construction. C'est-à-dire qu'une fois que je suis porté par un système de valeurs, la vraie question, c'est auprès de qui j'ai envie de le porter? Alors bien sûr, je peux le porter auprès de mes enfants, de mon conjoint, de mes amis, mais dans l'activité principale que je décide d'avoir dans ce monde. Je parle de l'activité parce que c'est le moment pourquoi je vais passer le plus de temps peut-être, ce qui va me donner du sens. Comment cet amour va se... Si je suis professeur, par exemple, comment j'incarne cet amour dans mon enseignement? Si je suis un médecin, comment j'incarne cet amour dans le soin? Si je suis un marketeur, comment j'incarne l'amour? Si je suis un manager, si je suis un... etc. Comment j'incarne cet amour? Pour ça, je vais devoir passer par une vision de moi au meilleur de moi-même dans ce contexte d'interaction avec le monde. Et c'est là qu'on arrivera au pilier 3. Parce que de la vision, il va falloir que j'améliore mon attitude au quotidien. C'est-à-dire que je prends une inclinaison de croissance et le monde évolue, mon interaction au monde évolue avec, et c'est mon attitude dans cette interaction qui a besoin d'évoluer. En fonction de quoi? En fonction du projet dans lequel je suis et de la valeur que je veux nourrir. Et c'est ça, s'incarner. C'est-à-dire, c'est le croisement de ce que je vis, de l'amour, et en même temps de la réalisation.
Voilà. Mais c'est justement ça, hein. ce que tu dis, excuse-moi de te couper, hein. Vas-y. Quoi, on continue.
Quand je parle souvent, les gens disent, ah oui, mais par exemple, est-ce que je peux m'enrichir dans la spiritualité? Mais s'enrichir dans la spiritualité, c'est un des piliers de la spiritualité. Parce que si je suis pas... L'enrichissement, il vient pas de n'importe quoi, il vient d'un don que vous avez apporté aux gens. C'est parce que vous donnez quelque chose que les gens achètent votre service, votre produit, votre quoi que ce soit. Voilà. Même un footballeur qui gagne des sommes incroyables, qu'on pourrait dire, mais en fait, la réalité, c'est que son jeu et la manière et le contexte dans lequel il le fait, il sert un nombre très, très important de personnes. Sinon, il ne serait jamais payé le prix qu'il est payé. C'est des milliers, voire des millions de personnes qui vont le regarder. Et à travers ça, c'est des milliers d'entreprises qui vont communiquer, c'est des milliers, etc. C'est énormément d'informations qui va circuler autour de ça. Donc, et c'est pour ça qu'on le paye cher. Voilà. Si un bijou, vous le payez très cher, c'est parce qu'il est rare. Et parce qu'il est là. Et pour ça, c'est quand vous êtes dans un grand restaurant, c'est parce que l'expérience culinaire est très élevée qu'on vous paye cher. Mais quand vous faites appel à un expert, c'est pourquoi en 10 minutes, il peut vous régler un problème parce qu'il a la capacité à voir, entendre, ressentir, repérer des choses que la plupart des gens n'ont pas appris à faire. Donc ça, c'est l'incarnation d'un talent. C'est l'incarnation, c'est-à-dire c'est le moment où je décide de travailler mon geste. Si c'est la danse, c'est la danse. Si c'est le chant, c'est le chant. Si c'est le soin, c'est le soin. Si c'est l'enseignement, c'est l'enseignement. Mais moi, je crois que si on veut incarner notre mission de vie, c'est pas seulement d'être connecté à ses valeurs ou à une vision, c'est d'incarner de plus en plus de l'excellence à l'égard du service qu'on veut rendre. C'est parce qu'on sera de plus en plus pointu dans cette excellence, dans cette expérience, dans cette expertise, que du coup, on va servir de plus en plus notre mission. Et donc, par conséquent, notre contribution. Et c'est pour ça qu'on nous payera plus cher. Donc, le retour, qu'il soit matériel, financier ou autre, il est juste un indicateur, pour moi, de l'incarnation spirituelle. Voilà. Mais vivre et donner et perdre et finir sous les ponts, je suis désolé, mais il y a eu un don aux autres, mais il y a eu un déséquilibre par rapport à son don intérieur. Tout ce qui est vivant commence à l'intérieur. Donc, vous êtes le centre du monde. Ici, chacun, nous sommes le centre du monde, quel que soit l'endroit où vous avez grandi sur la planète, vous êtes le centre de l'univers même. Et si on regardait dans votre biologie intérieure, le centre, c'est votre cœur, et au cœur de votre cœur, il y a votre essence même. Et tout le monde est autour de ça, en fait. Votre infime intérieur est énorme. Donc, chacun, après, dans sa mission, va trouver le pourquoi il est là et grandir grâce à sa conscience. J'aime dire cette phrase qui peut un peu choquer parfois, mais tous les glands d'un chêne ne vont pas devenir chêne. Alors, les gens disent, ah, pour vous, les glands, je ne sais pas si c'est une bonne image. Bon, la réalité, c'est qu'un chêne, il doit faire 10 000 ou 50 000 glands selon sa taille.
Oui.
Quand un gland tombe dans la terre, il peut évidemment repousser et devenir un chêne. Il n'y en aura pas beaucoup qui vont faire. Mais tous les glands ont un rôle qui est très important parce que même s'il pourrit sur place, replacé dans l'infiniment petit, c'est un univers à lui tout seul incroyable.
tout à fait.
Et est-ce que cet univers incroyablement vaste, puisque si on descend dans le film en petit, on va trouver un univers infiniment vaste de son rôle en tant que l'homme qui est en train de pourrir et nourrir la terre et tout ça, est-ce que c'est moins grand ou plus grand que le chêne? C'est pareil. Mmh. C'est juste la taille, c'est juste la dimension qui change. Mais ce n'est pas plus important ou moins important. Donc, chacun, nous sommes tous amenés à la différence du gland, c'est que nous, on a une conscience. Et cette conscience, elle peut grandir. Mmh. Elle peut évoluer. Et c'est là, être pleinement responsable de sa vie. Être un acteur responsable, auteur, créateur. Et voilà. Et il n'y a pas de grand leader qui n'ait pas pris des responsabilités dans leur vie. Mais pour que ces responsabilités elles aient pris autant de puissance, il faut qu'elles soient basées sur un système de valeurs et une vision. Et tous les grands leaders ont ça en commun. Ils ont un gros système de valeurs qui parfois est né d'une injustice terrible. Ils ont une vision incroyable. Pensons à Luther King. Lui disait une phrase comme ça qui me touche beaucoup. Je ne la défends pas complètement parce que je ne suis pas complètement d'accord avec, mais j'aime bien l'idée. Il dit « Un homme ne mérite pas de vivre s'il ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir. » Je pense qu'on mérite de vivre, même si on ne sait pas pourquoi on est prêt à mourir. Mais ce que j'aime dans cette phrase, c'est de comprendre toute la puissance en fait, de l'essence qu'il y a. Donc, quand cette puissance de feu hein, que je mets dans le triangle, que je mets dans l'index, eh bien, derrière, on va aller toucher la puissance du carré. Le carré, c'est le positionnement. C'est qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et comment, à partir de là, je vais construire une stratégie, des comportements qui vont me faire avancer concrètement. Ça, c'est la responsabilité. Et sans responsabilité, il n'y a pas de liberté, pas de vraie liberté. On devient responsable, et parce qu'on devient responsable, on devient libre de faire dire oui, de dire non, que ce soit à soi ou aux autres, apprendre à prendre sa place, dire à son conjoint non, j'ai pas envie, ça fait partie de prendre sa place, etc., etc. Et pour dire non et pour se positionner, on va avoir besoin du dernier, enfin de l'avant-dernier, là, c'est de la relation, c'est l'alliance.
L'annulaire
qui justement renvoie à ce besoin de relation. Parce que quand on est dans un cadre qui marche, ben on va vers le succès. Quand ce cadre ne marche pas parce que ça ne fonctionne pas, on n'a pas les résultats qu'on veut, eh bien, la tendance avec l'annulaire, c'est qu'on va rentrer dans une dévalorisation de soi. Mmh. Une situation dévalorisante ou dévalorisante, pire encore, à l'égard de l'environnement. La critique, le rejet, et c'est tellement facile.
L'isolement.
Il va falloir, du coup, se réactualiser aussi dans la responsabilité qu'on prend, là pour le coup c'est de la responsabilité, à travers la qualité du lien qu'on va décider d'avoir avec soi et avec l'autre. Et faire de l'alliance interne, c'est apprendre à communiquer avec soi, s'écouter, pour aller se chercher plus dans nos frustrations et nos désirs, pilier numéro 1, se chercher plus à travers cette communication sur nos désirs à moyen terme et long terme, pour soi et pour le monde, ça c'est la vision, et enfin se dire, parce que ça aussi, ça demande de la communication. Tiens, est-ce que je suis en phase aujourd'hui quand je défends telle ou telle valeur? Est-ce que dans ma vie, je suis en train de vivre ça ou pas? Est-ce que mes comportements sont cohérents avec ça? Est-ce que mon positionnement est cohérent avec ça? Et c'est là que du coup, c'est grâce à la communication que je vais pouvoir grandir. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans communication, avec soi, avec les autres, avec ses enfants, avec son conjoint, avec qui que ce soit. Et d'ailleurs, quand ça part de travers, un système, quel qu'il soit, bah, il y a moins de communication. Il y a de l'opposition, il y a du rejet, de la division. Et les lois de la division bah, nous mènent à la mort. En fait. Bah, c'est des lois, non pas divines, mais démoniaques. Hein. Mmh. On ramène vers l'union, la séparation, la culpabilité, la division nous amène vers la destruction. Voilà. Et donc, ces deux polarités sont toujours là, et c'est grâce à la relation que je peux changer. Donc, je peux, pour l'instant, entrer dans une relation valorisante, et donc, il va nous permettre d'aller chercher ce potentiel, croire en nous, accepter que c'est possible, ou au contraire, dévaloriser les autres.
Ça va complètement avec le merci, Paul, pardon. Avec le commentaire de Marjorie qui nous dit « Merci infiniment pour cette réponse, je suis seule. J'aime mon métier auprès des enfants, mais en effet, je rêve de soigner les animaux par l'énergie. Gratitude pour cette réponse à moi d'agir. »
Toi, pour répondre à Marjorie, si...
Ouais.
Le conseil que j'invite à faire, c'est vraiment de signifier à la terre entière qu'elle adore apporter son énergie auprès des animaux. Et dès qu'elle a l'occasion de le faire, Et dès qu'elle a des voisins qui arrivent, ah tiens, est-ce que tu peux me le laisser? Je vais faire quelque chose pour lui, etc. Et tous les gens qui aiment leurs animaux le comprennent. Et comme elle va le faire, il y a des gens qui très vite lui diront, ah bon, mais c'est quoi ton métier? C'est quoi ta contribution? Elle va pouvoir expliquer, ben regarde, évidemment, elle est tellement animée de ce feu intérieur que des projets vont naître, des occasions vont naître. Après, il faut juste qu'elle ose se dire à quelle échelle j'ai envie de faire ça. Est-ce que j'ai envie d'aller faire ça sur des tigres, sur des éléphants? Est-ce que vers quel type de population animale j'ai envie d'aller? Dans quel cadre j'ai envie de faire ça? Et si elle croit à son projet et qu'elle le fait, elle le fait, parce qu'elle est juste portée par son énergie, il y a des rêves qui vont devenir des réalités. Il y a des expertises qu'elle va développer. Il y a des alliances qu'elle va trouver. Il y a évidemment des crises qu'elle va rencontrer, mais comme elle a le feu intérieur, elle va les transformer. Et c'est comme ça que sa contribution au monde va devenir gigantesque. Là, on retrouve nos piliers. Hein, de ce qui est, l'accueil de ma vision, l'accueil de cet engagement que je prends et cette communication intérieure qui me manage. Si on regarde la vie d'Aznavour, notre chanteur Charles Aznavour, c'est incroyable. Lui qui a été tellement dévalorisé parce qu'il était trop petit, il avait une voix qui n'allait pas du tout, parce qu'il n'était pas fait pour ça, etc. Et qui dit quelques années plus tard, mais en fait, je bénis les gens qui m'ont challengé comme ça, parce que s'ils n'avaient pas été là, jamais j'aurais mis l'énergie que j'ai dû mettre pour prouver que ce que mon cœur me disait de vivre, de faire, un jour, la vie allait me le rendre, en fait. Et le succès qu'il a eu, évidemment, nous, on le voit tout brillant sur scène, etc. Mais la réalité, c'est que c'est la conséquence d'un travail énorme qui a été fait dans l'ombre. C'est pas de dans leader. Voilà, donc la reliance à soi et aux autres, ça va être quelque chose de très, très important, parce que quel que soit l'environnement, aussi difficile soit-il, c'est pour ça que dans notre communication, dans notre atelier, l'atelier numéro 3, on va travailler sur les valeurs et la vision. Le deuxième, on va travailler sur l'énergie et la mise en place de comportements plus cohérents.
Oui, pour ne plus réagir aux blessures.
Troisième atelier, on parlera de relations et d'aspirations profondes, c'est-à-dire c'est cette qualité de relation à soi intérieure, cette écoute, mais aussi la qualité de la relation à l'autre, et notamment pas quand l'autre m'écoute et qu'il est complètement heureux et que c'est l'apéro et qu'on est tous très heureux. Non, c'est quand on est confronté à un non, quand on est confronté à du rejet, quand on est confronté à une situation de presque de malveillance ou de comportement inadéquat. Là, comment moi j'aborde, comment j'accueille cette situation, comment j'interagis avec la personne, que ce soit mes enfants qui est en colère ou qui répond pas à mes demandes, que ce soit mon conjoint à qui je demande depuis 3 ou 4 fois de faire un truc et qui ne le fait pas, que ce soit mes salariés comme ça qui me ramènent des résultats que j'attends pas, etc. Comment je vais interagir pour co-construire. Et c'est ça l'intérêt pour moi de la communication. Donc là, on a besoin d'écouter, on le verra ensemble, on a besoin de comprendre ce qui se joue aussi en arrière-plan et qui nous met si facilement dans des conflits. Parce qu'on n'est pas dans les conflits pour le plaisir, on est parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et voilà. Et puis tout ça, ça va nous mener au dernier petit doigt dont tu disais
n'importe quoi. L'auriculaire.
L'auriculaire, celui qui me dit...
C'est ça.
Petit doigt me l'a dit.
Petit doigt me l'a dit,
revient, donc on a parlé du pouce, hein, j'associe au cercle.
Le cercle, oui.
On a parlé de l'index, que je rassocie au triangle, et au focus. On a parlé du carré, que je rassocie à la responsabilité et à l'engagement, mais aussi à la stratégie. Puis la croix, en fait, pour moi, qui est la symbolique de la reliance, verticale, totale, la bénédiction, l'amour, la connexion, le passage de la vie à la mort, hein. Et puis le dernier point, c'est la spirale, c'est la transformation. Et pourquoi la transformation avec le petit doigt? Parce que le petit doigt, c'est cette expression qui dit « Ah, c'est mon petit doigt qui me l'a dit ». Au gros, ça connecte deux choses. Hein. Ça connecte à la fois la conscience que je peux avoir d'une chose, plus ou moins consciente ou préconsciente, qui est là en arrière-plan, et la sensibilité. C'est-à-dire que je le sens comme ça. Donc, quelque chose qui fait que je le sens ou que je le sens pas. Ce qui est très intéressant, c'est quand on écoute cette intuition, quand on écoute cette sensibilité, quand on écoute cette conscience, alors peut émerger le meilleur de l'apprentissage, c'est-à-dire le génie. Comment, face à toute situation, je peux trouver quelque chose de génial, en fait. Et il y a dans le génial le génie, c'est de faire de toute situation un génial, c'est génial. Alors, évidemment, quand ça m'arrive, quand je viens de retrouver ma voiture dont les 4 pneus ont été vandalisés, c'est sûr que c'est pas facile. Et du coup, je vois pas forcément ce qu'il y a de génial. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre le monde extérieur et le monde intérieur, et découvrir que, et c'est ce qu'on va évidemment travailler, qu'il y a un espace immense de possibilités entre la situation qui arrive et la manière dont je vais pouvoir la gérer. Et c'est dans cette intériorité que le génie se révèle. Voilà, c'est la clé que je vais donner à la fin. Cette capacité-là, pour aller la trouver, on va avoir besoin de sortir de nos habitudes et se poser surtout des bonnes questions. Parce qu'il y a la question « mais pourquoi ça m'arrive ?» et la question « qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans cette situation ? Qu'est-ce que je pourrais vivre de différent, entendre de différent, ressentir de différent, me dire de différent ?» Comment aujourd'hui je peux aller vers des questions qui vont entraîner en fait une perception, des sentiments, et parfois des comportements qui soient plus positifs, plus constructifs, et qui, de là, de l'expérience que je suis en train de vivre, vont être riches pour mon avenir.
Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais ajouter aussi quelque chose qu'on avait partagé sur ce petit doigt. C'est aussi tout ce qui touche à l'intuition. Parce que ça aussi, c'est dans le cadre des ateliers, ça va aussi être l'objet de se poser la question de l'importance de notre intuition. Ce petit doigt qui l'a dit, c'est la petite tête, la petite voix dans la tête tout à l'heure. Je fais vraiment ces liens-là. Et moi, ça m'a marqué parce que très souvent, on le met plus petit, on se dit, c'est plus petit, ça parle moins fort. Et puis, au bout du compte, on se rend compte que plus on va l'entendre, plus on va pouvoir aussi déployer des choses au-delà, bien sûr, des autres polarités que tu as énoncées. Voilà.
Voilà, en tout cas, c'est un champ, je trouve, passionnant dans une société qui se transforme comme la nôtre, que d'aller de plus en plus dans cette vibration. J'adore ta vibra-conférence, c'est vraiment une affaire de vibration, de fréquence. Donc, il y a moins on apprend, plus à ressentir, mais il y a aussi besoin de mettre de la conscience sur les choses pour pouvoir ensuite mettre de l'action sur les choses. C'est ce que j'appelle l'éveil, l'éveil de sensibilité, l'éveil de conscience, l'éveil de conscience mentale, mais aussi de conscience à l'égard de la manière dont on va interagir. Et je crois que plus on revient vers le centre, plus on devient puissant et pertinent. D'ailleurs, toute la nature commence au centre.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Merci. Moi, c'est déjà une heure, ça fait 1h16
qu'on est ensemble. Oui, c'est ça, ça fait déjà 1h16 qu'on est ensemble.
Le timing habituel.
Oui, on est pleinement dedans. On va reprendre 2-3 questions. Avant de prendre les dernières questions pour clôturer notre conférence, j'aimerais juste qu'on revienne quand même sur les différentes étapes des ateliers. Je voulais aussi vous annoncer que ces ateliers seront en Zoom, de façon à ce qu'on puisse être ensemble, se voir et partager, parce que c'est aussi un outil que tu utilises énormément, Polo, et de manière vraiment très bien ciblée. Donc, c'était juste une petite déjà précision et revenir sur ces trois ateliers, comment être aligné sur ma longueur d'onde, également comment ne plus réagir à cette blessure émotionnelle, et donc après dans le passage à l'action. Et puis, tu parlais de ce pont de communication, comment communiquer avec bienveillance et efficacité. Je dirais que ces trois ateliers sont dans un ordre hiérarchique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, il vaut mieux commencer le premier avant de faire le deuxième, même si les ateliers seront en replay. Qu'est-ce que tu en penses ? Ou est-ce qu'on peut les vivre indifféremment ?
Le premier arrive en premier, ensuite on a un deuxième qui va compléter le premier.
Un vrai sens.
Si vous ratez un truc, c'est pas grave, le contenu sera quand même très intéressant parce que c'est du contenu contextualisé qu'on peut appliquer tout de suite, qu'on soit dans le champ des valeurs et de l'objectif, qu'on soit dans le champ de la dimension plus émotionnelle, comment justement je peux accueillir des situations qui m'ont blessé et les transformer immédiatement, et puis comment je peux communiquer de manière plus adéquate. Mais si on travaille les trois dans le bon sens, ça a encore une envergure plus grande, puisque en fait, au terme de tout ça, on verra que tout ça, ça répond en fait à un système global.
C'est ça. Et puis surtout, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des exercices pratiques qu'on va vivre. On va practicer, on va vraiment s'entraîner, quoi. C'est ça.
Oui, la théorie, on en trouve de partout, c'est super, on en a besoin, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire part des exercices qui me semblent les plus pertinents. Un peu comme celui de, que quand vous avez expérimenté le coup du centimètre, comme tout à l'heure au début de cette vidéo, ça se sent tout de suite, en fait. Et donc, je voudrais qu'à chacune des rencontres qu'on ait ensemble, bien sûr, il y a un petit peu d'explication, mais surtout moi, je vais vous faire faire ensemble ce que je fais sur des groupes qui me semblent, en tout cas, ramener sur 2 heures, ça dure à peu près 1h30, 2 heures.
C'est ça.
À la fois avec une présentation, une démonstration, une mise en situation, et puis les feedbacks et les questionnements, parce que souvent, ça éveille beaucoup de questions après par la suite, et donc c'est ça aussi qui est riche. Interaction qu'on peut avoir ensemble, et ce que permet Zoom, puisqu'on est tous en interaction avec des écrans multiples. Donc
c'est ça. Voilà. Tu m'expliquais que tu faisais des... qu'on va peut-être faire aussi des petits binômes, enfin plein de choses pour pouvoir...
Oui, avec Zoom, on peut faire des sous-groupes. Donc on peut, une fois qu'on a compris, mettre les gens par groupe de deux ou de trois, expérimenter ce que je viens de démontrer, en fait. Et puis, du coup, faire un retour d'expérience. Mais c'est vrai que quand on est à deux ou trois ensemble sur la même vidéo, en pratique, très... Voilà, sur une séquence de 15 minutes, on peut pratiquer un truc avec quelqu'un et le faire à quelqu'un, c'est aussi une belle façon de le faire faire à soi-même après.
Bien sûr.
J'aime bien cette notion de sous-groupe.
Merci, Paul. On va prendre les dernières questions qu'on a. J'ai vu survoler là sur le chat et sur lesquelles j'aimerais rebondir. Je ne peux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Bonjour, je ne peux malheureusement pas rester là. Ouais. Oui, le live sera bien évidemment mis en replay. Vous pouvez, alors, moi, je vous invite vraiment à le partager aussi. Hein. Vous pouvez le revoir en replay sur tous les faisceaux que nous avons là sur la chaîne LGC. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, que vous soyez sur YouTube ou Facebook. Tout est en replay et vous pouvez récupérer bien évidemment cette Vibra-conférence et la voir et la re-revoir. Pareil pour les ateliers, une fois que vous les aurez, ils sont disponibles à vie pour vous. Parce qu'il va y avoir des exercices vraiment très, très pointus, des expériences que vous allez peut-être pouvoir bien revoir, revivre. Donc, vous les aurez pour vous et à vie. Donc, ça, c'est pour répondre à Lara qui nous posait la question. Et puis, un peu plus loin, j'avais une question. Oui, qui nous disait, Julie, j'ai parfois, compliqué parfois de trouver un équilibre entre lâcher prise et être dans l'action, se laisser porter et être proactif, avoir confiance dans les choses qui arrivent.
Oui, c'est une intéressant question, mais de Julie, parce qu'il y a la question et la réponse.
C'est ça.
Je vais te proposer de bien laisser à l'écran, comme ça je vais reprendre ta question.
Bien sûr.
Un équilibre entre lâcher prise et être dans l'action. En fait, le lâcher prise, ce n'est pas le laisser aller. C'est surtout pas ça. Le lâcher prise, c'est avoir un exercice de souplesse à l'égard de l'environnement. Par exemple, c'est de lâcher ce que je peux laisser aller. Je suis en relâche, je suis en souplesse, et par conséquent, en accueil de ce qui se passe. Ainsi, par exemple, quelqu'un me tient le poignet. Voilà. Le lâcher prise, c'est pas me laisser aller. Le lâcher prise, c'est m'accueillir dans le mouvement de l'autre, en fait. Voilà. Donc, je vais, si par exemple, j'ai prévu un dîner, j'ai prévu pour 5 personnes, puisqu'on était 5 à table, donc j'ai prévu la table, les machins et tout ça, et finalement, tu débarques à 8. Voilà. Donc là, j'ai un décalage entre ce que j'avais prévu, ce que j'avais préparé, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, et puis ce qui arrive, quoi, qui n'est pas prévu. Et là, du coup, j'ai un changement de programme. Donc le lâcher prise, c'est accepter d'entrer dans un cadre qui n'est pas celui que j'avais prévu. Je lâche prise là-dessus. Alors là-dedans, il ne s'agit pas de se laisser aller. Il s'agit de se dire comment je vais créer face à cette nouveauté. On devait démarrer un séminaire et puis au moment où je démarre, le PowerPoint ne marche pas. Enfin, le truc ne marche pas. Donc, le lâcher prise, ce n'est pas de passer toute la matinée à me mordre les doigts parce qu'il n'y a pas de PowerPoint. Ma lâcher prise, c'est d'accueillir la situation et de co-construire avec ça. Et c'est ça de lâcher prise, c'est accepter l'idée que l'environnement me sert parfois différemment que ce que j'aurais souhaité. À partir de là, il y a ce sur quoi je peux encore mener une action. Qu'est-ce que je peux faire face à ça? Et accepter de lâcher prise sur ce sur quoi je n'ai pas la main. J'avais prévu qu'on sorte, mais voilà que la météo est complètement pourrie. Et qu'il pleut, et qu'il pleut, et qu'il pleut, et qu'il pleut. Moi, j'avais pris ces journées de vacances pour profiter du soleil. Lâcher prise, c'est d'arrêter de me saccager l'esprit intérieur parce qu'il pleut. C'est-à-dire, comment je co-construis avec ce qui se passe. Donc, je lâche prise sur ce que j'avais prévu et j'épouse la nouvelle forme. Et pour ça, ça va demander de la flexibilité, de la souplesse, du relâchement. Et pour ça, du coup, je vais gagner en confiance à l'égard de ce qui arrive, puisque l'anxiété, c'est la crainte que les choses ne se passent pas comme moi j'avais prévu. Je suis anxieux parce que tu devais rentrer à 10h, et c'est d'autant plus important qu'on a un truc à faire ensemble. Mmh. Et je suis d'autant plus anxieux que tu n'arrives pas, parce que je me dis, je ne voudrais pas me retrouver tout seul. Donc, je suis dans l'anxiété. Voilà, j'attendais du matériel pour démarrer mon séminaire, et si mon matériel n'arrive pas, je suis très mal, parce que je ne peux pas démarrer mon séminaire. Faire confiance, c'est accepter l'idée que je dois construire autrement avec ce qui va se passer. Et donc, si je suis dans cette anxiété, c'est qu'il y a un avenir que j'espère qu'il va se passer comme ça, et comme il ne se passe pas comme ça, je doute, j'ai peur, je crains, et là, je pars dans un fantasme intérieur qui est de l'insécurité. Or, l'insécurité, d'abord, ça, ou le stress intérieur ne réduit pas le danger. Il peut y avoir un danger, mais tant qu'il n'est pas là, le danger, bon, il n'est pas là. Parfois, il y a même, je peux avoir peur du danger, et même quand le danger est passé, je peux continuer d'avoir peur de ce qui aurait pu arriver. Il y a des gens qui sont très forts comme ça pour entretenir, c'est le système nerveux, hein, c'est pas une tare, hein. C'est le système nerveux qui est tellement sous pression qu'il a des mécanismes qui l'entretiennent. Et ça, il y a des gens qui sont angoissés toute leur vie. En fait. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on comprend mieux comment ça se passe, on peut vraiment libérer quelqu'un, pas du jour au lendemain, mais on peut l'amener peu à peu à lâcher prise et à faire confiance. Et lâcher prise, dans un couple, c'est très important. Dans une relation éducative, c'est très important. Quand on fait du business, c'est très important. Quand on veut s'ouvrir à de la nouveauté, construire, s'engager, c'est très, très important d'apprendre à lâcher prise, parce qu'il y a rarement, les choses se passent comme vous les avez prévues. Il y a plein d'imprévus. Et s'ouvrir à l'imprévu, c'est faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est accepter que l'imprévu se présente. Et peut-être même de découvrir que cet imprévu a quelque chose de plus grand que je l'aurais imaginé.
Tout à fait. Voilà. Merci, merci. Merci Paul pour ces éléments de réponse. Alors Julie, on vous invite à nous faire votre retour, même si j'ai vu que d'autres commentaires que vous avez mis, et notamment un remerciement pour les réponses. C'est avec plaisir, Julie, avec plaisir. Une deuxième question, j'aimerais mettre en évidence, si tu veux bien, Polo. Comment peut-on évoluer si les conditions ne sont pas faciles? On parlait de la crise sanitaire directement en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'introspection, tu en parlais tout à l'heure. Et puis, plus qu'on vit individuellement, personnellement, comment peut-on évoluer malgré cela?
Alors, évoluer, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Évoluer, c'est tirer des enseignements de ce qui se présente. D'accord? Ça veut dire prendre des responsabilités. Et là, je vais être très cash. Il y a deux façons de réagir à une situation. Soit de la critiquer, soit de prendre des responsabilités. Il y a, par exemple, Joker qui dit une chose qui me touche beaucoup.
Ah.
Il dit « Ça fait des siècles que les curés escroquent les gens au nom de l'amour.
Ouais.
Connaît la musique. » Donc, derrière cette phrase, on sent qu'il y a quand même un peu de lourd là-derrière. Et moi, j'ai grandi aux communautés, je sais ce que c'est que les curés et les machins. Et j'ai été en rébellion totale avec ce domaine-là, donc je sais de quoi il parle. Parce que j'ai tenu... Ça veut dire qu'on peut être en colère par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on observe. Évoluer par rapport à une situation, c'est la première chose, c'est de sortir, si vous voulez, je n'engage que moi dans ce que je vais vous dire, mais c'est ce qui m'a servi à grandir et à faire grandir beaucoup de personnes, c'est sortir de la critique, parce que la première façon d'évoluer, c'est de rejeter le problème sur les autres. Ah oui, mais c'est les curés. Ah oui, mais c'est les médecins. Ah oui, mais c'est ceci. Et là, la meilleure façon de le faire, c'est faire une grosse généralisation. Si je veux sortir de ça, c'est dire, OK, ils l'ont fait. OK, certains l'ont fait. OK, ils en étaient là. Bon, la vraie question, c'est comment moi, aujourd'hui, je réagis par rapport à ça. Donc, ça veut dire prendre des responsabilités. Pas être dans le rejet de la responsabilité, mais prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité, c'est un acte de courage. C'est beaucoup plus facile de critiquer parce que ça demande aucune responsabilité. Je répète, critiquer soi ou les autres ne demande aucune responsabilité. C'est très facile de faire ça. Et c'est OK. Parce qu'il y a toujours des gens critiquants et on a besoin. Moi, j'ai besoin de la critique des gens pour grandir. Maintenant, il y a deux façons d'être critiqué. Soit c'est de manière idiote, auquel cas, ça glisse un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard, parce que j'ai du mal à y apporter du crédit, mais ça ne m'empêche pas d'apprendre. Et de me dire, tiens, quelle autre attitude je peux avoir face à ça? Peut-être d'en faire un acte où je vais prendre la responsabilité de faire quelque chose de pédagogiquement intéressant. Je me dis, tiens, qu'est-ce que cette situation me permet d'apprendre et de grandir? Donc, pour évoluer, première chose, je prends des responsabilités. La deuxième, c'est que j'accueille et je considère. Parce que sans accueil et considération de la situation, aussi négative soit-elle, je ne peux pas la transformer. Et la troisième, alors, si je suis resté dans le rejet de la responsabilité, la deuxième étape, c'est que je tombe dans la critique. Et si je reste dans la critique, je vais tomber dans la victimisation. C'est absolument ça. Et c'est mon métier depuis 30 ans, donc je connais très bien mon métier, je peux vous démontrer dans toutes les situations humaines que quand il y a rejet de la responsabilité, quand il y a critique ou dévalorisation, derrière il y a victimisation, consciente ou pas consciente. Et tomber dans cette plainte ou dans cette victimisation, c'est pas grave, sauf que je tombe psychologiquement dans un système sur lequel j'ai pas de pouvoir face à l'autorité, où je crois ne pas en avoir. Et c'est une croyance dans laquelle je suis entré. Mmh. C'est pour ça que je vous propose l'autre attitude, là, c'est ce que j'appelle les voyants verts. Là, j'avais les voyants rouges. Maintenant, j'ai les voyants verts. J'accueille toute situation, d'accord ? Enfin, j'accueille, ça veut dire que je prends des responsabilités à l'égard de ce qui se passe, parce que j'ai pas, s'il y a un tremblement de terre, bah, je le prends sur le coin de la figure. Je veux dire, s'il y a une augmentation de l'essence à la pompe, bah, je la subis, en quelque sorte, cette augmentation. Si mon train n'arrive pas à l'heure, bah, je subis, j'ai pas la main là-dessus. Donc, il faut que je l'achète. Et de nouveau, j'accueille cette situation. Considération, accueil, bénédiction. Et je me dis, tiens, face à ça, qu'est-ce que je peux faire de cette situation ? Sur quoi j'ai la main ? Donc, je lâche prise sur ce sur quoi j'ai pas la main et je rebondis à partir de mon cœur, en fait. Qu'est-ce que je sens qui serait bon de faire dans cette situation ? Comment je peux construire avec ça ? En quoi cette situation elle va me faire grandir ? Et c'est ça, l'évolution. Donc, pour évoluer, il faut se mettre dans cette condition d'accueil, de considération et d'enseignement. Quel enseignement je tire de ça ? Les conditions ne sont pas faciles, si elles sont même très difficiles, eh bien, la vraie question, c'est que je peux ne pas comprendre pourquoi ça m'arrive, je peux me sentir extrêmement injustement traité, être dans beaucoup de colère, être triste, même déçu, d'avoir beaucoup de peine par rapport à ce qui s'est passé. Mais la vraie question, c'est aujourd'hui, si je veux me sortir de là, c'est qu'est-ce que je fais de ça ? Enfin, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça me révèle d'important ? Il n'y a pas de problème, qu'est-ce que je fais ? En tout cas, c'est exactement l'axe sur lequel on va avancer ensemble à travers nos ateliers.
Génial, merci.
Je crois que ça me passionne, je commence à connaître le truc.
Comment tu dis ? Ouais, tu commences à voir le truc.
Ça me passionne, donc je...
Super, génial. Ouais, je voulais finir avec le beau message de Marjorie qui nous dit merci de tout cœur à tous les deux et pour votre belle lumière partagée. Je suis en gratitude d'avoir reçu les précieux conseils de Paul. Merci Sana pour tes émissions. Merci à toi. Des cadeaux de la vie et des cadeaux que vous générez parce que vous êtes présents sur la chaîne et les lumières, c'est aussi les vôtres qui brillent. Donc, on est tous ensemble, je dirais, dans le même bateau. Bien sûr, on te remercie énormément, Paul. Et je remercie aussi toujours le grand changement de pouvoir nous permettre de vivre ces belles vibra-conférences, effectivement, des précieux conseils, des co-créations. Je pense que ce sont des espaces utiles aujourd'hui, au-delà de ce que chacun fait, parce que je sais que toi, tu accompagnes énormément de gens, tu es tout dans des séminaires, tu as créé une école, et tu prends cet espace avec la communauté du grand changement pour pouvoir partager tout cela et de nous proposer aussi des ateliers exclusifs, des choses qui ne sont pas proposées ailleurs, pour nous, de proposer ces trois temps d'ateliers où je vous invite bien évidemment à venir partager avec nous autour de ces ateliers qui sont pour vous, je vous le rappelle, et qui sont des moments qui vont vous permettre très certainement d'avancer. Vous serez bien sûr en contact avec Paul si vous avez aussi envie d'aller plus loin. Voilà, vous pouvez très bien taper son nom, Paul Pyramet, vous retrouverez son site, que ce soit sur Facebook aussi, sa page et tous les lives que tu animes, tout ce que tu fais au quotidien. Un grand, grand, grand merci encore à toute cette belle communauté et un beau merci à toi, Paul. Je vais te laisser le mot de la fin comme j'aime faire avec mes intervenants, mais vraiment merci pour tout.
Pour revenir sur, je crois que revenir sur le titre de la conférence, cette notion de quête et de mission spirituelle.
Tout à fait.
Le message que j'ai juste envie de vous laisser, c'est de suivre cette partie de vous-même qui aspire à grandir, que j'honore aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends ce temps-là ce soir, parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a probablement une raison, donc cueillez cette dimension, suivez le fil de votre cœur et approfondissez, ne restez pas là. Merci à vous et quel que soit l'endroit où vous êtes, en tout cas, j'aurai un grand plaisir, quel que soit le contexte, en tout cas, de vous rencontrer aussi. La vie nous le permet. Merci à vous. Voilà. Merci à toi pour ton accueil.
Avec plaisir.